Très bien, ben bonsoir à toutes et à tous. Donc, je vais reprendre quelques éléments des séances que nous avons vues avec Jean-François Lebrun la fois dernière. Il nous parlait des séances 13 et 14 du séminaire sur l'éthique, sous le titre « La mort de Dieu et l'amour du prochain ». Alors, je vais reprendre quelques éléments de ces deux chapitres avant de céder la parole à Véronique Robert, qui est notre conférencière aujourd'hui. Donc, Lacan fait référence à un article de Sperber en ce qu'il a trait à la question de la sublimation, avec laquelle nous sommes aux prises depuis plusieurs chapitres. La visée de Sperber est de prouver l'origine sexuelle commune sous une forme sublimée des activités fondamentales de l'être humain, par le biais des mots à signification présumée originellement sexuelle et de ce que moi j'ai appelé leur dérive dans le temps et les usages. Ce à quoi Lacan objecte, insistant qu'il s'agit de bien distinguer la fonction du signifiant de la création de signification par l'usage métonymique et métaphorique des signifiants. Tout en reconnaissant l'intérêt du travail de Sperber, c'est-à-dire l'intérêt du symbolisme sexuel, comme pouvant polariser à l'origine le jeu métaphorique du signifiant. Il rappelle ensuite une conférence donnée à Louvain, où il parle de ce qui se rapporte chez Freud à la fonction du père. Il rappelle le lien entre loi et péché, et ce que l'expérience religieuse nous enseigne du conflit entre liberté et grâce. Rappelant le texte de Freud, Moïse et le monothéisme, et à travers lui l'intérêt majeur de l'histoire juive, Lacan montre en quoi la succession d'un double meurtre, celui de Moïse rejoué dans celui du Christ, vient achever le message monothéiste et donner sens à ce qu'il faut bien appeler la rédemption chrétienne. À ce titre, et questionnant le concept de sublimation, Lacan laisse ouverte la question de savoir ce que recelait le temple de Salomon à jamais détruit, à savoir l'arche de l'Alliance, symbole du pacte, du nœud, dira-t-il plus haut dans le texte, entre Dieu qui commande et son peuple. Tout l'art de Freud, nous dit Lacan, est d'avoir lié le meurtre du père à l'émergence de la loi, là où on aurait pu s'attendre au retour de la jouissance, en l'absence du père. Que du contraire, l'interdiction s'en trouve renforcée. Dès lors, une transgression est nécessaire pour accéder à cette jouissance, et désir et loi sont étroitement noués. Le christianisme apparaît ici comme la religion du père mort, du Dieu mort, ce que Lacan appelle un certain message athée du christianisme lui-même. Dans son paragraphe, dans son chapitre « L'amour du prochain », il nous indique que Freud ne néglige pas le nom du Père, reconnaissant à la fonction du Père d'être une sublimation essentielle à l'ouverture d'une spiritualité qui représente un pas dans l'appréhension de la réalité comme telle. Pour Lacan, l'éthique n'est pas séparable de l'idéologie et il faut préciser le sens politique de ce tournant de l'éthique après l'héritage freudien. Il caractérise ainsi de foulerie fondamentale, c'est-à-dire de connerie, pour le dire autrement, de bouffonnerie, la voix de l'intellectuel de gauche, et de knèverie, la voix de l'intellectuel de droite, c'est-à-dire de canaillerie. Il affirme que Freud n'était ni l'un ni l'autre, ni une canaille, ni un imbécile. Il était humanitaire et non humaniste, mais non progressiste, ce qui est pour Lacan un dire vrai. Il se pose donc ce que c'est qu'un dire vrai, dire le vrai sur le vrai. C'est souvent le perdre, nous dit-il. Contentons-nous de trouver la vérité sur ce que dit Freud, c'est déjà pas mal. La jouissance nous reste donc interdite. Elle est un mal puisqu'elle comporte le mal du prochain, c'est ce qu'on appelle l'au-delà du principe de plaisir. Il s'agit de repenser le problème du mal en l'absence de Dieu puisqu'il est mort. On sent bien que la voie ouverte par les moralistes traditionnels, nous dit Lacan, là où le plaisir est un bien, il y a quelque chose qui cloche. Freud, lui, il est carrément horrifiée devant le commandement suivant de l'amour du prochain, tu aimeras ton prochain comme toi-même, puisque, nous dit-il, le prochain est foncièrement méchant, donc moi-même également. Et puis, mon amour, dit Freud, est précieux et ne se distribue pas à tout vent. Ce commandement apparaît dès lors comme une exhorte à jouir de l'autre. Que penser d'ailleurs, nous dit Lacan, de Saint-Martin qui partage son manteau, bienfaisance ou amour, ce n'est pas du tout la même chose. Lacan annonce en clôture qu'il parlera de Sade et du lien qu'il y voit à l'éthique et fait un détour par ce que Kant voudrait voir dans la raison pure, le poids de la loi pour tout sujet, mais où il échoue pourtant. Voilà, je pense que ça reprend les éléments principaux des deux paragraphes précédents, des deux chapitres précédents. Et donc nous accueillons ce soir Véronique Robert, qui est psychanalyste, membre de l'ECF, qui travaille au Courtil comme directrice thérapeutique du Courtil 15, qui accueille des enfants et des adolescents, et qui également consulte en tant que psychanalyste à Bruxelles et à Braine-le-Comte. Véronique Robert va nous parler des séances 15 et 16 de l'éthique, sous le titre « La jouissance de la transgression et la pulsion de mort ».
Voilà, merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion de lire Sade. je dois dire que jusqu'à il y a plus ou moins un mois et demi, quand je me suis mise à préparer le séminaire, bien voilà, je me suis dit « bah, va falloir que je lise Sade ». Et je l'ai fait et je dois vous avouer que je ne suis pas déçue. Voilà. Tout d'abord, pour commencer, donc vous avez sur la première page de séminaire une illustration. Donc c'est une illustration de Man Ray qui date de 1838. Et qui s'intitule « Le portrait imaginaire de Sade ». Et en fait, Man Ray a représenté Sade sculpté dans les pierres de la Bastille. Là où il a été longtemps emprisonné. Sur fond donc de révolution, et alors j'ai noté au tableau ce que Man Ray, mais alors ça ne figure pas sur l'illustration, mais ce que vous pouvez lire au bas de l'illustration, qui est un souhait. De Sade, donc afin que les tracas de ma tombe disparaissent de dessus de la surface de la terre, comme je me flatte que ma mémoire s'effacera de l'esprit des hommes. Et il signait toujours D.A.F. Sade. Il faut savoir que Sade est enterré au cimetière je dis pas de bêtises. Je ne sais plus maintenant. attendez. Oh là là. Ben au cimetière de Charenton, c'est ça, hein? J'hésitais. Il est enterré au cimetière de Charenton et il n'y a pas de nom sur sa tombe. Bon, j'y reviendrai sur ce souhait de Sade qui n'est pas anodin. Bon. Alors, deux chapitres. Le premier chapitre, la jouissance de la transgression. Le deuxième chapitre, la pulsion de mort. Vous allez voir que dans le premier chapitre, Lacan travaille beaucoup autour de la barrière de l'imaginaire Donc, ce dont il va parler essentiellement, c'est de l'imaginaire. Et dans le chapitre « La pulsion de mort », vous allez voir que d'emblée, c'est la dimension symbolique qui va être introduite. Alors, voilà. Donc, je relève ce dire de Lacan dans ce chapitre. L'action générale des professeurs concernant la pensée de ceux qui se trouvent avoir enseigné quelque chose au cours de l'histoire consiste en général à la formuler de telle sorte qu'elle n'apparaît que par ses côtés les plus limitatifs et les plus partiels. Certains en font le cubage, le bilan. Quel intérêt, dit Lacan. Ce qu'il propose par contre, ce qu'il fait concernant la pensée de Freud, par exemple, c'est s'en servir, se guider avec ce qu'il nous a donné comme orientation, se déplacer à l'intérieur. Donc, à la suite de Lacan, c'est ce que nous allons tâcher de faire, à savoir nous déplacer à l'intérieur de ces deux chapitres. Lacan donc annonce qu'il parlera de Sade et tient d'emblée à dissiper des malentendus. Premier malentendu à dissiper, c'est que nous n'avons pas à nous considérer, à la suite de Sade, comme des pionniers militants sur les interdits, les limites, ou destinés à interroger les limites, les mettre en question, les chatouiller. Donc non, on ne fera pas ça. Deuxièmement, il nous dit que le champ de l'éthique n'est pas un champ qui nous concerne de façon externe. Au contraire, il a cette formule qui est forte, je trouve. La dimension éthique est notre expérience même. Il dit ça à la page 245. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Eh bien, qu'il s'agit d'éthique et non de pastorale analytique. Que la question qui nous préoccupe, la question du comment faire, nous n'allons pas la prendre au niveau de la technique, laquelle est censée résoudre beaucoup de choses, dit Lacan, mais pas tout. C'est justement ce que nous ne pouvons pas résoudre, ce qui ne marche pas, ce qui ne fonctionne pas, ce qui rate, qui va nous intéresser. Donc, nous allons nous mettre à l'affût de ce qui se présente comme impasse, comme déchirement, comme tout ce qui ne va pas. Notre orientation, c'est ça. Et c'est ça l'éthique, et c'est ça l'expérience, en fait. Donc, dit Lacan, pas question pour nous d'avoir un espoir d'assurance, ou une certaine tranquillité, ou d'arriver au bout de l'impasse. Voilà, petite introduction, déjà très consistante, je trouve. Alors, Lacan va continuer à articuler le paradoxe de la jouissance. Et il va donc il reprend des choses qu'il avait déjà en partie développées les fois précédentes. Donc il va l'aborder à partir de la jouissance, le paradoxe de la jouissance, il l'aborde à partir de son rapport à la loi. Donc là je reprends certaines choses. Donc il suit les pas de Freud, lequel, dans son mythe Totem et Tabou, donne, dit Lacan, une réponse à ce qu'on appelle la mort de Dieu. Alors, entre le chapitre précédent et ce chapitre-ci, Jacques Lacan a fait une conférence à Bruxelles, deux conférences à Bruxelles, dont il fait référence dans le chapitre que je vous présente aujourd'hui. Cette conférence à laquelle il fait référence s'intitule Le discours aux catholiques. Il a fait ça à l'université Saint-Louis, je crois. Il a prononcé cette conférence à Saint-Louis. Donc vous la trouvez dans ce petit fascicule, qui reprend le titre, les titres de ces deux conférences, Le triomphe de la religion précédé de discours aux catholiques. Voilà, vous trouvez ça au seuil. Bon, alors, dans son discours aux catholiques, Lacan propose une lecture de la mort de Dieu à partir de Freud. Alors, les dieux, au pluriel, ne sont pas autre chose que des figures métaphoriques du désir. Ça, vous trouvez dans le discours aux catholiques à la page 38. Et le seul Dieu, donc le Dieu unique, le Dieu des 10 commandements, est le Dieu de la parole pour Lacan. Comme les commandements, qui sont les commandements de la parole, valent pour tous, croyants ou non-croyants, le drame de Dieu, du Dieu de la parole, Dieu mis à mort dans la figure du père primordial dans le mythe freudien, ou dans la figure du Verbe dans le message chrétien, est un drame universel. Parce que, donc dit Lacan toujours dans le discours aux catholiques, c'est le drame du logos qui articule dans l'homme le manque de l'être, autrement dit le vide de Dieu, et conditionne sa vie comme passion et sacrifice. Donc vous trouvez ça dans le discours aux catholiques à la page 40. Dieu est mort, plus rien n'est permis. Ça, c'est toujours dans le discours aux catholiques. Page 36. Attendez, je peux même peut-être vous lire. Donc Dieu est mort, plus rien n'est permis. Le déclin du complexe d'Œdipe est le deuil du père, mais il se solde par une séquelle durable, l'identification qui s'appelle le surmoi. Bon, je ne pense pas que je dois vous lire tout ça, mais je vais reprendre. Alors là, il va falloir que je me débarrasse de ça et que je prenne ça. Voilà. Merci. Bon. Donc, les dieux, figure du désir. Alors, le Dieu, donc dans le monothéisme, ou encore le Père, ou encore, on pourrait dire, la parole, la loi, les 10 commandements, qui interdit le désir. Je schématise parce que je trouve que c'est plus clair alors. Et la mort de Dieu, hop, plus rien n'est permis. Plus rien Voilà. Alors, donc, le drame de la passion dans le christianisme incarne la mort de Dieu, et par là, ce qui est arrivé à la loi. Ainsi, les 10 commandements, ici, les 10 commandements, ont été substitués par un seul et unique commandement, qui est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Que nous situons ici, du côté de « Plus rien n'est permis ». Voilà. Or, donc là, ben là je peux peut-être... oui, non, je peux peut-être... Or, donc, Lacan nous rappelle encore une fois dans ce chapitre-ci que ce commandement paraît inhumain à Freud. Il s'y arrête avec une horreur motivée. Cette horreur de Freud, de l'honnête homme qu'il est si profondément, elle est liée à cette méchanceté où il n'hésite pas à nous montrer le cœur le plus profond de l'homme. Dans le malaise de la civilisation, vous pouvez lire tout un chapitre « Aimer son prochain comme soi-même ». Pourquoi serait-ce là notre devoir? Et donc Freud tente d'interroger ça. Lacan avance le paradoxe suivant. La résistance de Freud devant le commandement « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » et la résistance qui s'exerce pour entraver son accès à la jouissance sont une seule et même chose. Là aussi, je vais l'écrire parce que moi, cette phrase-là, j'ai dû la lire deux fois pour la comprendre. Ouais. Donc, c'est pas si simple. Je suis désolée. Je trouve qu'on voit mieux, quand on écrit. Donc, contre la formule « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », eh bien, il dit que cette résistance de Freud, c'est la même... Bah juste, moi, quand j'ai du mal avec ce truc, la résistance... C'est la même que l'accès à la jouissance. Donc, résister contre « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », c'est résister devant le jouir. Donc, c'est reculer devant... devant la jouissance. Donc, reculer devant la jouissance, c'est la même chose que reculer devant aimer son prochain comme soi-même. Bah, c'est difficile pour moi à intégrer ça. C'est pour ça que je dois l'écrire. Bon. Voilà. Alors. Donc, chaque fois qu'un sujet recule devant sa jouissance, ah oui, pourquoi ça? Pourquoi est-ce que reculer devant la jouissance, c'est jouir encore plus d'une certaine façon? Eh bien, Lacan nous dit... Chaque fois qu'un sujet recule devant sa jouissance, il retourne l'agressivité contre lui, et de là en vient l'énergie du surmoi. Une fois entré dans cette voie, il n'y a plus de limite à l'agression toujours plus lourde du moi. Donc, il n'y a plus de limite. C'est important puisque tout ce chapitre tourne autour de la barrière, de la limite.
Donc ce processus, nous dit Lacan, s'engendre à la limite, là où vient à manquer la médiation de la loi, là où il n'y a plus rien pour la garantir, là où Dieu est mort, où plus rien n'est permis. Donc, le recul devant le « tu aimeras ton prochain comme toi-même » est la même chose que la barrière devant la jouissance, et non pas son contraire. Ou encore formulé autrement, parce que Lacan insiste beaucoup, je recule à aimer mon prochain comme moi-même, pour autant qu'à cet horizon, il y a quelque chose qui participe de je ne sais quelle intolérable cruauté. Dans cette direction, aimer mon prochain peut être la voie la plus cruelle. Voilà le paradoxe qu'à la suite de Freud, Lacan nous propose. Alors, il continue, si, bon, pour nous dire que, enfin, pour interroger, qu'est-ce qui nous fait reculer à attenter à l'image de l'autre? Eh bien, c'est par identification à l'autre. Parce que l'autre est l'image sur laquelle nous nous sommes formés comme moi. Et là, il utilise plusieurs fois le terme de puissance. Puissance convaincante de l'altruisme. Puissance uniformisante d'une certaine loi d'égalité. Égalité. Du respect des droits élémentaires. Puissance captivante. Donc tout ça indique... Le terme « puissance » indique qu'on est dans le registre de l'imaginaire. Fondement même de la loi « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Je souligne le terme « égalité » parce que c'est un des trois termes qui a été mis en avant après la Révolution française, hein, ou à la Révolution. Et si vous lisez Sade, lui, il ne parle pas d'égalité. Au contraire, il met en avant toutes les inégalités. Voilà, Lacan nous dit que cette loi de « tu aimeras ton prochain comme toi-même » est un échec sur le plan social. Elle n'arrive à rien de ce qui serait accomplissement, réconciliation, avènement sur terre, de ce qu'elle promet. Par contre, nous dit Lacan, la religion, par cette formule « Dieu a fait l'homme à son image », nous indique une voie, à savoir... que donc l'homme fait à l'image de Dieu, nous savons que toutes les représentations, toutes les images de Dieu voilent un vide. L'homme à l'image de Dieu indique donc que c'est pour le creux, le vide derrière l'image qu'il nous intéresse. Ce qui nous intéresse dans l'homme, c'est ce qu'on ne voit pas dans l'image. C'est l'au-delà de la capture de l'image, le vide de Dieu à découvrir, dit Lacan. Ici en passant, Sade écrit de Dieu, « Dieu est absolument pour l'homme ce que sont les couleurs pour un aveugle de naissance. Il lui est impossible de se les figurer. » Bon, ça rejoint un peu, ça illustre, disons, ce que Lacan tente de nous amener. Euh, Ça, des dieux, c'est une affaire. Si vous lisez un peu Sade, vous verrez que, comment dire, il s'attaque à Dieu, hein, et très fort. Moi, je vous lirai quelques extraits. Ce Sade dont Lacan nous dit qu'il nous enseigne quelque chose. Bon, il nous enseigne pas mal de choses, vous allez voir. Mais donc là, entre autres, sa position à l'égard de Dieu. Enfin, vous allez voir. Je vais avancer. Lacan nous dit que Sade est sur cette limite que constitue la barrière de l'image. Et il nous enseigne en tant qu'il imagine la franchir. Alors, je trouvais important de vous donner quelques mots sur la vie de Sade, parce que je trouve que c'est fort intéressant. Enfin, moi, j'ai appris beaucoup de choses. Alors, et puis je continuerai. Bon, Donatien Alphonse François, marquis de Sade, donc est né en 1740 et est mort en 1814. Il aima et admira son père, homme d'esprit, grand séducteur, prodigue et libertin. Il ignora sa mère, laquelle était tenue à l'écart par son mari. Donatien passe les trois premières années de sa vie à l'écart de ses parents. Il est élevé avec la conviction d'appartenir à une espèce supérieure. Sa nature despotique et violente se forme très tôt. Il écrit ceci. Allié par ma mère à tout ce que le royaume avait de plus grand, tenant par mon père à tout ce que la province de Languedoc pouvait avoir de plus distingué, né à Paris dans le sein du luxe et de l'abondance, je crus, dès que je pus raisonner, que la nature et la fortune se réunissaient pour me combler de leurs dons. Je le crus parce qu'on avait la sottise de me le dire. Et ce préjugé ridicule me rendit hautain, despote et colérique. Il semblait que tout dût me céder, que l'univers entier dût flatter mes caprices et qu'il n'appartenait qu'à moi seul d'en former et de les satisfaire. Voilà, ça vous donne une idée du personnage. De 4 à 10 ans, son éducation est confiée à son oncle, l'abbé Jacques-François de Sade, qu'il héberge au château de Saumane, près de l'Isle-sur-la-Sorgue, pour ceux qui connaissent. Moins abbé qu'un seigneur curieux de toutes choses et singulièrement d'antiquité et d'histoire, donc l'abbé aime vivre et bien vivre, s'entourant de livres et de femmes. Il s'était lié d'amitié avec Voltaire, avec qui il entretenait une correspondance. À 10 ans, Donatien entre au collège dirigé par les pères jésuites, établissement alors le mieux fréquenté de la capitale. À 14 ans, il est reçu à l'école des chevaux légers de la garde du roi à Versailles. Il a déjà la pire réputation. Donc à 14 ans, il est joueur, prodigue, débauché. Il fréquente les coulisses des théâtres et les maisons des proxénètes. Il est assurément peu de plus mauvaise école que celle des garnisons, peu où un jeune homme corrompt plutôt et son ton et ses mœurs, écrit-il lui-même. Alors, pour se débarrasser d'un fils qu'il sent capable de faire toutes sortes de bêtises, de sottises, le comte de Sade, son père, lui cherche une riche héritière. Son père a fixé son choix sur l'héritière des Montreuil. Lacan écrit, tous les autres mariages ont rompu sur sa très mauvaise réputation. Alors, bon là, je vais un peu passer. Donc, la marquise de Sade aima son mari tant qu'elle le put jusqu'au bout de ses forces. elle finit par rentrer dans les ordres. Parce que le marquis a plusieurs vies, ça. Ah bon, d'accord. Il fréquentait les bordels et abritait ses nombreuses aventures dans des maisons qu'il louait à Paris, à Versailles et ailleurs. 4 mois après son mariage, il est enfermé au donjon de Vincennes, sur ordre du roi, à la suite d'une plainte déposée par une fille galante. Je ne trouvais pas inutile de vous lire un extrait de la déposition faite par cette fille. Bon, c'est un peu dur, mais bon, voilà. Il lui a d'abord demandé si elle avait de la religion et si elle croyait en Dieu, en Jésus-Christ et en la Vierge. À quoi elle a fait réponse qu'elle y croyait. À quoi le particulier a répliqué par des injures et des blasphèmes horribles, en disant qu'il n'y avait point de Dieu, qu'il en avait fait l'épreuve, qu'il s'était manualisé jusqu'à pollution dans un calice qu'il avait eu pendant 2 heures à sa disposition dans une chapelle, que Jésus-Christ était un Jean-Foutre et la Vierge une baie. Je ne sais pas ce que c'est une baie.
Je suis désolée, mais...
Il a ajouté qu'il avait eu commerce avec une fille avec laquelle il avait été communié, qu'il avait pris les 2 hosties, les avait mises dans la partie de cette fille et qu'il l'avait vue charnellement en disant « Si tu es Dieu, venge-toi ». Qu'ensuite, il a proposé à la comparante de passer dans une pièce attenant à la dite chambre en la prévenant qu'elle allait voir quelque chose d'extraordinaire. Qu'en y entrant, elle a été frappée d'étonnement, en voyant 4 poignées de verges et 5 martinets qui étaient suspendus à la muraille, et 3 Christs d'ivoire sur leur croix, 2 autres Christs en estampe attachés et disposés sur les murs avec un grand nombre de dessins et d'estampes représentant des nudités et des figures de la plus grande indécence. Que lui ayant fait examiner ces différents objets, il lui a dit qu'il fallait qu'elle le fouettât avec le martinet de fer après l'avoir fait rougir au feu et qu'il la fouetterait ensuite avec celui des autres martinets qu'elle voudrait bien choisir. Bon, qu'après ça, il a détaché 2 des crises d'ivoire, un desquels il a foulé au pied et s'est manualisé sur l'autre jusqu'à pollution. Qu'il a même voulu exiger de la comparante qu'elle prît un lavement et le rendit sur le Christ. Que pendant la nuit que la comparante a passé avec lui, il lui a fait voir et lui a lu plusieurs pièces de vers remplies d'impiété et totalement contraires à la religion. Bon, voilà, qu'il a poussé l'impiété jusqu'à obliger la comparante à lui promettre qu'elle irait le trouver dimanche prochain pour se rendre ensemble à la paroisse de Saint-Médard, y communier et prendre ensuite les 2 hosties dont il se propose de brûler l'une et de se servir de l'autre pour faire les mêmes impiétés et les profanations qu'il dit avoir faites avec la fille dont il lui avait parlé. Donc voilà, ça c'est ce qui a causé son premier emprisonnement. Cette plainte déposée par cette fille. Bon, il y en a eu d'autres, donc il a été plusieurs fois emprisonné, mais sa femme, sa belle-mère, étant donné que c'était des nobles, s'arrangeait toujours pour faire ressortir Sade de la prison. Chaque fois, il recommençait. Jusqu'au jour où il a été emprisonné pour une 12 années. Non, 12 ans plus des petites périodes, ce qui fait un total de 14 ans en prison. Et puis il a été orienté donc à l'hospice des malades mentaux de Charenton. Donc remarquons quand même que la première diffusion du nom de Sade dans l'opinion publique n'a rien de littéraire et se fait par des scandales. Et que, ce qui est quand même frappant, c'est comment il vit, enfin comment il s'en prend à Dieu. Et j'ai l'impression, enfin, que en tout cas là, au début, enfin il s'en est toujours pris à Dieu, parce que même en 1900, en 1990, il a été libéré. Pardon, en 1890, oui, ça. 1790. En 1790, il a été libéré et il était aux côtés des révolutionnaires et il a eu l'occasion de faire des discours anti-chrétiens, donc aux côtés donc de Robespierre et des sans-culottes. Mais ça n'a pas duré parce que sa condition de noble l'a rattrapé. Bon, alors, voilà. Alors, il dit, les entr'actes de ma vie ont été trop longs. Donc, il parle justement de ces périodes d'emprisonnement. Donc, détenu sous tous les régimes, monarchie, république, consulat, empire, jamais jugé, il est resté enfermé en plusieurs fois et dans des conditions fort diverses, pendant 27 ans sur les 74 années que dura sa vie. C'est là, donc dans ces périodes d'emprisonnement, qu'il se mit à écrire. Et Simone de Beauvoir dit de lui, « En prison entre un homme, il en sort un écrivain. » Alors, en 1785, donc il était emprisonné, il entreprend la mise au net de sa première grande œuvre, 120 journées de Sodome. Afin d'éviter la saisie de son ouvrage, il en recopie le texte d'une écriture minuscule sur 33 feuillets de 11,5 cm collés bout à bout. Et donc ce document est conservé dans un musée tout près de Genève. Alors, donc, il est rendu à la liberté en 1790. Il s'installe à Paris. Il a exactement 50 ans. Voilà, il fait la connaissance. Il se plaint. Donc, il a, là, comme il est représenté, c'est plutôt. Enfin, il est représenté plutôt à 50 ans, là. C'est la Révolution. Il se plaint même, j'ai lu ça, d'avoir pris du poids en prison. Il se désole de ça. Enfin, alors, il fait la connaissance de Marie-Constante Quesnay, une comédienne de 33 ans, qu'il ne le quittera plus jusqu'à sa mort. À sa sortie de prison, il n'aspire plus qu'à couler des jours paisibles d'homme de lettres, vivant bourgeoisement des revenus de ses terres de Provence. Les dévergondages de son imagination, il les réserve désormais à son œuvre. Enfin, je trouve que ça, c'est quand même un point intéressant. Voilà, j'ai pas fait de grandes études sur ça, mais la fonction de l'écrit en prison a dû avoir quand même un effet. Alors, l'œuvre de Sade. L'œuvre de Sade reste occultée et clandestine pendant tout le XIXe siècle. Elle est réhabilitée au XXe siècle malgré une censure officielle qui dure jusqu'à 1960. Elle passe à la Pléiade en 1990. Alors, Lacan interroge, est-ce que cette œuvre est le témoignage d'une époque ? Oui, dit Lacan. Sade s'insère dans les conditions, tout à fait, donc Sade s'insère tout à fait dans les conditions faites à l'homme noble de son temps à l'orée de la Révolution. Les atrocités de Sade ont une face réaliste, dit Lacan. Pensez à ce qu'un grand seigneur pouvait se permettre avec ses paysans. Donc, Lacan continue en disant « Nous aurions tort, au nom de la retenue qu'imposent à notre faiblesse les fascinations de l'imaginaire, de penser que sans savoir ce qu'ils font, les hommes ne sont pas capables, en de certaines positions, de franchir ces limites. Bon. » Et Lacan relève là la position ironique de Sade. Alors Lacan pose une deuxième question. Cette œuvre est-elle sublimatoire? Mais sublimatoire au sens où Freud nous le propose, c'est-à-dire transformation d'une tendance sexuelle en une œuvre où chacun pourra y reconnaître ses propres rêves et ses propres impulsions. Alors Lacan dit non, ce n'est pas une œuvre sublimatoire dans ce sens-là. On verra dans le chapitre suivant qu'il dira quand même que c'est une œuvre sublimatoire, créationniste. Mais donc pas une œuvre sublimatoire au sens de la transformation de la tendance sexuelle. Ça, je reparlerai plus tard. Il dit qu'il s'agit plutôt donc d'une littérature expérimentale. Alors. Ça, je me suis demandé, bon, en quoi c'est une œuvre expérimentale? Bon, premièrement, parce qu'il s'agit là d'une sorte de catalogue d'atrocités qui défient la sensibilité, accumulation de détails et de péripéties, à quoi s'ajoutent des dissertations et des justifications ennuyeuses. Première chose. Deuxième chose, Lacan dit que l'œuvre de Sade est une expérience qui arrache le sujet à ses amarres psychosociales. Enfin, je trouve que ça dit tout haut ce qui va être dénoncé par la Révolution. Bon. Voilà pour quelques mots de la vie de Sade et de son œuvre. Alors, reprenons. Donc, nous dit Lacan, Sade franchit la barrière de l'imaginaire. Alors là, il nous dit dans sa théorie, dans sa doctrine et pas dans le fantasme. Alors là, déjà, première question, pourquoi est-ce que Lacan nous dit que... il franchit la barrière de l'imaginaire, mais pas dans le fantasme. Alors, je me suis dit, je ne sais pas, je propose à la réflexion, il ne s'agit pas du tout, enfin, on n'est pas là du tout dans le même registre que le fantasme de Schreber. Qu'il serait beau d'être, c'est comme ça que se formule le fantasme de Schreber, qui serait beau d'être une femme en train de subir l'accouplement. Avec Sade, on n'est pas dans le registre du beau, il me semble. Première réponse, puisque le registre du beau relève de l'imaginaire. On n'est pas non plus dans le même type de fantasme que celui que nous présente Freud du côté on bat un enfant. Il ne s'agit pas, pour reprendre encore une formule que j'ai puisée dans le discours aux catholiques, il ne s'agit pas du tout de la toute-puissance du désir engendrant la crainte de la défense, l'interdiction chassant du sujet l'énoncé du désir pour le faire passer à un autre, à cet inconscient qui ne sait rien de ce que supporte sa propre énonciation. Donc si on déplie la formule du fantasme, on bat un enfant, on arrive à je suis à la formule je suis aimé par le père qui se transforme, je suis battu par le père, enfin il y a toutes ces transformations. Et on arrive, si vous voulez, donc la formule du désir, c'est je suis aimé par le père, et la crainte de la défense, l'interdiction chasse le sujet de l'énoncé du désir pour le faire passer à un autre, et alors ça se finit par se formuler du côté du on bat un enfant. À cet inconscient qui ne sait rien de ce que supporte sa propre énonciation. Donc, voilà, Sade franchit la barrière de l'imaginaire dans sa théorie. Donc, c'est une théorie. Cette théorie est exprimée par un personnage de son roman, Saint-Fond, qui nous présente la nature comme étant foncièrement mauvaise et pour qui la démarche éthique de l'homme consiste à réaliser une assimilation, une intégration à un mal absolu, grâce à quoi son intégration dans la nature foncièrement mauvaise se réalisera dans une sorte d'harmonie inversée. J'avais envie de vous lire un petit passage. C'est pas Saint-Fond ici, hein, parce que j'avais envie de vous lire un petit passage de Justine ou les malheurs de la vertu, si vous le voulez bien. Je trouvais ça assez amusant. Donc, de quel droit, je te prie, prétends-tu, Thérèse, qu'un mari soit obligé de faire le bonheur de sa femme? Et quel titre ose alléguer cette femme pour l'exiger de son mari? La nécessité de se rendre mutuellement telle ne peut légalement exister qu'entre deux êtres également pourvus de la faculté de se nuire, et par conséquent entre deux êtres d'une même force. Une telle association ne saurait avoir lieu qu'il se forme aussitôt un pacte entre ces deux êtres de ne faire chacun vis-à-vis de l'autre que la sorte d'usage de leur force qui ne peut nuire à aucun des deux. Mais cette ridicule convention ne saurait assurément exister entre l'être fort et l'être faible. De quel droit ce dernier exigera-t-il que l'autre le ménage? Et par quelle imbécilité le premier s'y engagera-t-il? Je passe un petit passage. Ne serais-je pas dupe d'avoir pitié du poulet qu'on égorge pour mon dîner? Cet individu, trop au-dessous de moi, privé d'aucune relation avec moi, ne put jamais m'inspirer aucun sentiment. Or, les rapports de l'épouse avec le mari ne sont pas d'une conséquence différente que celle du poulet avec moi. L'un et l'autre sont des bêtes de ménage dont il faut se servir, qu'il faut employer à l'usage indiqué par la nature, sans les différencier en quoi que ce puisse être. Mais je le demande, si l'intention de la nature était que votre sexe fût créé pour le bonheur d'une autre, et vice-versa, aurait-elle fait cette nature aveugle tant d'ineptie dans la construction de l'un et l'autre de ses sexes? Leur eût-elle mutuellement prêté des torts si graves que l'éloignement et l'antipathie mutuelle en dussent infailliblement résulter? Bon, voilà, je voulais vous lire ce petit passage, voilà, que je trouvais amusant. Donc, on voit là que Sade fait quand même aussi beaucoup référence à cette nature et à l'inégalité, enfin à la différence. Et donc le personnage Symphon, ce qu'il propose comme démarche éthique, c'est donc l'intégration de l'homme dans la nature, foncièrement mauvaise, foncièrement avec plein de différences, avec plein d'inégalités, des rapports de force. Donc, voilà. Attends. Ah, mais je me suis trompée de... Voilà, je me suis trompée d'extrait, me semblait bien. J'ai encore un autre extrait à vous lire. Page 36, 37. Ah oui, c'est ça. Voilà, je me suis trompée d'extrait, c'est pas grave. Donc, dans l'histoire de Juliette, je vais vous lire aussi un petit passage. « Jette les yeux sur les ouvrages de la nature, me répondit ce philosophe, et considère toi-même l'extrême différence que sa main a mise à la formation des hommes nés dans la première classe ou nés dans la seconde. Sois impartial et décide. » Donc là, il parle, la première classe, c'est la classe des nobles, et la seconde classe, celle des paysans. Pour l'avoir fait observer par d'habiles anatomistes, que j'affirme qu'il n'est aucune similitude dans les différentes conformations de l'un et de l'autre, donc les nobles et les paysans. Et pourquoi donc la nature qui observe toutes ces gradations avec tant de rigueur dans tous les autres ouvrages, les aurait-elle négligées dans celui-ci? Toutes les plantes se ressemblent-elles? Tous les animaux sont-ils de la même figure et de la même force? Oserez-vous comparer l'arbuste au majestueux peuplier, le chien roquet au fier danois, etc., etc. Voilà donc, dans les mêmes classes, des différences essentielles. Et pourquoi donc ne voudriez-vous pas qu'elles existassent de même dans celles des hommes? Oserez-vous rapprocher Voltaire de Fréron et le mâle grenadier prussien du débile Otanto? Ne doutez donc plus, Juliette, de ces inégalités. Et dès qu'elles existent, ne balançons pas à en profiter et à nous convaincre que si la nature a bien voulu nous faire naître dans la première de ces classes d'hommes, c'est pour jouir à notre gré du plaisir d'enchaîner l'autre et de la faire despotiquement servir à toutes nos passions et à tous nos besoins. Bon, voilà. Donc, il s'agit, nous dit Lacan, d'une pensée qui développe l'impasse. Par là, déjà, Sade nous enseigne quelque chose sur notre orientation. Donc là, je l'ai déjà dit, mais je le répète, ce n'est pas inutile. Notre orientation vers ce qui ne marche pas, vers le non-rapport, vers le réel. Il nous enseigne aussi quelque chose sur le prochain. Non sur le prochain comme le semblable à nous-mêmes, notre reflet, mais le prochain, le proche, celui, dit Lacan, à prendre dans nos bras, ne serait-ce que pour l'acte de l'amour, l'acte de faire l'amour. Donc l'expérience nous indique, dit Lacan, combien les images du moi peuvent contrarier notre propulsion dans cet espace de l'acte de faire l'amour. Alors, de celui qui s'avance, dit Lacan, dans un discours plus qu'atroce, qu'avons-nous à apprendre sur les lois de cet espace en tant que nous y leurre la captivation imaginaire par l'image du semblable. Donc, ce que Lacan essaye d'élaborer, c'est cet espace du plus proche de nous-mêmes, mais qui n'est pas le prochain en tant que notre image. C'est là que je devais vous lire la femme comme le poulet dans l'assiette, mais bon, je l'ai lu plus tôt. Alors, Lacan prend la métaphore des pots de moutarde pour indiquer ce qu'est cette notion de même. De quoi s'agit-il avec les pots de moutarde? Eh bien, vous prenez des pots de moutarde, vous les mettez sur une étagère, les pots sont identiques. Ils peuvent porter la même étiquette, mais ce qui relève du même, ce n'est pas la moutarde. Ça pourrait être tout aussi bien de la confiture. Ce n'est pas le pot, parce que s'ils sont identiques, ils sont quand même irréductibles. On peut quand même dire que ce pot-là, ce n'est pas le même que celui-là, même si ils se ressemblent. Alors, ce qui relève du même dans cette métaphore des pots de moutarde, c'est le vide. C'est l'intérieur du pot, dont on ne sait pas s'il est à l'un ou s'il est à l'autre. Alors Lacan dit, voilà ce qui sert en français tout au moins à désigner la notion du même. Alors... Donc, il conclut ce chapitre sur deux points importants. Quand on avance dans la direction de ce vide central, nous dit Lacan, le corps du prochain se morcelle. Sade s'exprime ainsi dans l'histoire de Juliette. Prêtez-moi la partie de votre corps qui peut me satisfaire un instant. Et jouissez, si cela vous plaît, de celle du mien qui peut vous être agréable. J'ai malheureusement pas retrouvé cette phrase. Elle est dans Lacan, mais je n'ai pas retrouvé dans l'histoire de Juliette. Alors, nous voyons là, dit Lacan, la première manifestation articulée de ce que nous appelons l'objet partiel. En le nommant ainsi, nous indiquons que cet objet ne demande qu'à rentrer dans l'objet total, objet de notre amour et de notre tendresse, conciliant en lui toutes les vertus du stade génital, dit Lacan. Eh bien non, il faut voir les choses autrement. L'objet partiel est à l'état d'indépendance par rapport à l'objet total. L'objet total, le prochain. Pour figurer ça, Lacan évoque une peinture de Vittore Carpaccio, Saint-Georges et le dragon, où l'on voit la figure de Saint-Georges au milieu donc d'une figure de charnier. Et je peux faire passer, j'ai imprimé, l'impression n'est pas très bonne parce que j'avais plus de bleu. mais donc vous pouvez voir cette peinture. Alors, donc, indépendance de l'objet partiel par rapport à l'objet total, le prochain. Alors, Sade nous enseigne aussi quelque chose sur le caractère indestructible de l'autre. En fait, Là, c'est un peu. Donc, ce que Lacan dit, c'est que la victime survit à tous les mauvais traitements. Elle ne se dégrade pas dans son caractère d'attrait voluptueux. Tout ce qui arrive donc à la victime n'altère en rien son image. Oui, donc quand on lit un peu ça, on peut voir que voilà, il insiste beaucoup sur la beauté, par exemple, de ses victimes. Et la vie, enfin, le, oui, cette image de l'autre ne renaît à chaque fois et n'est en rien atteinte. J'aurais pu vous lire quelques exemples, mais je n'ai pas noté de page. Donc. Alors, chez Sade, on voit poindre l'idée d'un supplice éternel. Alors, d'ailleurs, Sade souhaite que rien ne lui subsiste. Alors là, Lacan interroge et dit, ne met-il pas dans ce fantasme le contenu de ce plus proche de lui-même? Alors, bon, vous vous rappelez, au début du chapitre, Lacan disait que il parlait de la doctrine, de la théorie de Sade et pas de son fantasme. Est-ce que c'était encore ça? J'essaie de retrouver mes notes. Attendez, je cherche. Et à la fin du chapitre, il parle quand même du fantasme de Sade. Si je ne me trompe. Voilà, je retrouve.
Vous savez qu'il le fait. Sade franchit la barrière de l'imaginaire dans sa théorie, mais pas dans le fantasme.
Oui, mais je ne retrouve plus où j'étais noté ça. Enfin bref, passons. Donc il franchit la barrière de l'imaginaire dans la théorie, mais pas dans le fantasme. Et à la fin de ce chapitre, il évoque le fantasme de Freud, le fantasme de Sade, oui, qui serait justement. Ben plutôt qu'il serait beau que rien ne me subsiste, quelque chose comme ça. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'on peut trouver dans cette formule que tout disparaisse. Disparaisse de dessus de la surface de la terre, comme je me flatte que ma mémoire s'efface de l'esprit des hommes. Voilà, petite question. Donc, est-ce que Lacan veut nous indiquer que le fantasme de Sade serait de réaliser de façon la plus aboutie ce plus proche de lui-même, ce plus proche de lui-même, qui est le vide de Dieu peut-être. Enfin voilà, ce sont des je m'avance dans des réponses. Voilà. Alors. Voilà, donc il termine aussi par une petite remarque sur le cas de l'Homora pour indiquer que, pour rappeler aussi le moment où l'Homora recule pour s'empêcher d'accéder à cet espace du plus proche de lui-même. Donc, lorsqu'il doit raconter à Freud le supplice au rat. Donc, voilà pour cette première partie. Alors, la deuxième partie, le deuxième chapitre, qui est la pulsion de mort. Et je vous ai dit que là, Lacan va franchement introduire la dimension symbolique et l'articulation signifiante. Et je vais aller un petit peu plus vite. Donc, c'est dans ce chapitre que Lacan dit que la dimension éthique est notre expérience même. On en voit le témoignage dans une série de déviations éthiques, comme par exemple refaire le moi du sujet, la reformation du sujet. Tout ça, ça relève d'une illusion. Illusion d'une harmonie, d'une résolution de l'impasse, d'un rapport non aliéné de l'homme à lui-même. Au contraire, Lacan nous amène à une autre chose paradoxale qui est l'articulation signifiante. Donc il dit aussi, donc chapitre précédent, jouissance paradoxale, ici, cette chose paradoxale qu'est l'articulation signifiante. Elle est là au départ, à l'état inconscient, avant la naissance de toute chose, enfouie, inconnue, non maîtrisée, non sue par celui qui en est le support. Ce champ de l'articulation signifiante comporte une spaltung qui se maintient tout au long du développement, et c'est par cette spaltung qu'a à être situé le champ du désir, le champ de la jouissance. Alors, la jouissance n'est pas, j'ai passé beaucoup, n'est pas uniquement à être considérée comme la satisfaction d'un besoin, mais bien comme la satisfaction d'une pulsion. Et la pulsion a été élaborée par Freud comme étant quelque chose de très complexe qui, alors je vais prendre uniquement là ce que Lacan nous dit, la pulsion comporte une dimension historique, une dimension de remémorisation qui n'est introduite que par la dimension signifiante. Alors, bon, j'ai pas repris la pulsion de mort chez Freud. Je me suis tenue au texte de Lacan. Alors, que nous dit Lacan ? Que la pulsion de mort n'est pas ce retour naturel à l'état inanimé. La pulsion de mort s'articule au niveau de la chaîne signifiante en tant qu'elle est un repère par rapport à ce qui relève de la nature. C'est le sens du petit extrait que vous avez dans le séminaire, le système P6, que Lacan lit de Sade. Le mouvement de la nature. Attendez, hein. Le mouvement de la nature. Alors, que nous dit... Je ne sais pas si vous avez lu tous ce que vous avez à la page 249. Donc, le mouvement de la nature va vers le retour à l'état d'équilibre terminal. Il va vers l'harmonie dans l'anéantissement. Bah, vous voyez quand même que le fantasme de Sade, c'est un peu ça, c'est l'anéantissement, me semble. L'intégration dans la nature anéantie. Donc, pour Sade, donc pour, bon, je suis peut-être un petit peu embrouillée, hein, donc le mouvement de la nature va vers le retour à l'état d'équilibre terminal, l'harmonie dans l'anéantissement, plus rien. Et pour Sade, donc dans ce petit texte, la guerre, la discorde et le crime sont absolument nécessaires à la nature car elles lui permettent de maintenir ce qu'Horace nomme la rerum concordia discors, la concordance des choses dans la discorde. Donc la pulsion de mort n'est pas ce mouvement naturel de retour à l'inanimé, à l'état d'équilibre terminal. La pulsion de mort est au-delà de la tendance du retour à l'inanimé. La pulsion de mort est une volonté de destruction, volonté de recommencer à nouveau frais, volonté d'autre chose, pour autant que tout peut être mis en cause à partir de la fonction du signifiant. Je vais un peu vite. Lacan, enfin, je ne sais pas si c'est clair. Il y a la pulsion de mort articulée par Freud comme étant ce mouvement naturel de retour à l'état d'équilibre, à l'état inanimé, et la pulsion de mort telle que nous la présente Lacan comme étant quelque chose au-delà de la tendance du retour à l'inanimé. Et donc là quand même, Lacan dit dans ce chapitre que la pulsion de mort telle qu'elle est articulée par Freud a quelque chose de suspect, de doublement suspect. Alors, il dit que la pulsion de mort de Freud est du même ordre que le système Piscis de Sade. Elle est une sublimation créationniste. Donc, c'est fort quand même ce qu'il dit là dans ce chapitre. C'est que la pulsion de mort de Freud, c'est vraiment la même chose. Enfin, c'est du même ordre. Je ne dis pas que c'est la même chose, non. C'est du même ordre que le système Piscis de Sade. Donc, système Piscis de Sade, je suppose que vous l'avez lu. C'est du même ordre en tant que c'est une sublimation créationniste. Et donc c'est suspect pour Lacan. Et autre point suspect, c'est que Freud substitue un sujet à la place de la nature. Freud substitue un sujet qui veut l'au-delà du principe de plaisir. Alors, qu'est-ce que c'est que cette sublimation créationniste ? Eh bien, Lacan nous dit, dès que nous avons affaire à la chaîne signifiante, il y a hors du monde de la nature l'ex nihilo, le point de vide sur lequel elle se fonde et s'articule comme telle. Donc, dès qu'il y a la chaîne signifiante, eh bien, il y a le vide qui permet la création, qui permet de tout remettre en cause, de tout détruire, mais aussi de créer. C'est ça, la sublimation, ce qu'il entend par la sublimation créationniste. Donc, c'est une sublimation qui est prise à partir, me semble-t-il, de l'ordre symbolique. Et ce n'est pas une sublimation qui relève de l'imaginaire, si on peut dire les choses comme ça. Voilà, je ne sais pas si je suis suffisamment claire. Donc, Lacan articula la pulsion de mort comme une sublimation créationniste de Freud, au même titre que l'être suprême en méchanceté de Sartre. Alors, là maintenant ça fait boucle avec ce que je vous ai dit au début, cette perspective créationniste est la seule qui permette d'entrevoir l'élimination radicale de Dieu. Ce point ex nihilo, à l'origine de la chaîne signifiante, est le lieu élu où se produit la sublimation. Voilà, alors, voilà, il parle aussi de la femme. Alors, oui, peut-être, je ne sais pas si on peut le représenter comme ça, hein, ça me, je ne l'ai pas écrit, mais ouf. Voilà, il y a la barrière de l'imaginaire et il y a l'espace, le champ de la chose, le plus proche de moi-même. Je pense qu'on peut y mettre la pulsion de mort de Freud. On peut y mettre l'être suprême. L'être suprême en méchanceté de Sade. On peut y mettre, alors ça vous dirait, je ne peux pas déployer, la femme dans l'amour courtois, qui est apprente, nous dit-il, du côté de l'être. Voilà. Je ne sais pas si ce sont des tentatives d'approcher cet espace de vide. Enfin, est-ce que c'est pas une façon aussi de comment dire, ouais. Enfin voilà, c'est à partir du vide qu'il y a cette ces créations, on pourrait dire. Bon, Lacan, je vais terminer comme ça, hein, parce que Lacan termine ce chapitre sur la pulsion de mort en posant la question, toujours, parce qu'il a passé deux chapitres à interroger cet espace et continue à interroger. Comment interroger ce champ? Comment approcher de plus près? Qu'arrive-t-il lorsqu'on n'y projette pas de façon sublimée ses rêves? Que se passe-t-il lorsque sonne pour nous l'heure du désir? Eh bien, on n'approche pas pour les meilleures raisons. Et il propose donc de poursuivre le chapitre suivant. Voilà, je vais m'arrêter là.
Bien, merci beaucoup. Pas facile de prendre le relais dans les questions sur ces deux chapitres. Mais en vous écoutant, en tout cas, il y a deux choses que j'ai notées que je voudrais peut-être partager avec tout le monde. D'abord sur la question de la littérature expérimentale. Je trouvais ça intéressant parce que l'expérimental, j'y connais certaines choses. Et je me disais, au fond, est-ce qu'on pourrait, on pourrait se poser la question, au fond, l'expérience, d'ailleurs Lacan dit ça à un certain moment, c'est la traversée de quelque chose et c'est quelque chose qui transforme en principe l'individu qui est dans, pris dans cette expérience. Et donc moi je pensais au côté de l'effet de la lecture sur le lecteur, l'effet de la lecture de Sade sur le lecteur, qu'on pouvait dire qu'elle était expérimentale dans ce sens-là aussi. Au fond, ça, ça regarde le lecteur, ou plutôt comment le lecteur... Oui, il va falloir le tenir.
Mais en fait, c'est intéressant votre question, parce que... que Lacan dit, et effectivement, moi j'ai lu des passages, je n'ai pas lu du début jusqu'à la fin, Lacan dit que la lecture de Sade est parfaitement ennuyeuse. Et donc, et il dit qu'il il a une petite note sur l'ennui, et il dit justement, c'est parce que c'est ennuyeux et ennuyant parce qu'on approche, enfin, l'effet sur le lecteur, et même, enfin, bon, ça je ne sais pas sur ça, mais l'effet sur le lecteur, l'effet d'ennui, c'est parce que justement on approche de cette barrière. C'est parce que ça lui-même peut-être recule et que nous on recule devant cette barrière. Donc en effet. En effet, oui, c'est une expérience à l'ennui. Oui. Enfin bon, là, en tout cas, oui, pour, mm-hmm. pour le coup. Et, moi, ça m'a pas... Enfin, il y a des passages qui m'ont amusée, mais j'aurais pas lu tout ça du début jusqu'à la fin.
Il parle aussi de désarrimage psychosocial à un moment, donc...
Désarrimage psychosocial, oui.
Donc voilà, ça faisait écho pour moi à ça, et je me disais aussi que peut-on penser de toute expérience, l'expérience littéraire en étant une, enfin la littérature expérimentale sur son versant sadique. Enfin ça, c'est, j'ouvre la question qui est une question très large. Alors
la dernière question, c'est
donc que peut-on penser de tout processus expérimental, ici on parle de littérature expérimentale en ce qui concerne Sade sur son versant qui pourrait être sadique, mais ça c'est une très vaste question que j'ouvre simplement comme ça à la réflexion. Alors, un autre point que j'ai relevé, enfin, je l'ai écrit comme ça, vous en avez parlé après, mais au moment où vous en parliez, donc, se demander si le fantasme donc, de Sade, vers quoi vient Lacan à la fin du premier chapitre, ça ne pourrait pas se dire d'une certaine façon sur qu'il serait bien que rien ne me subsiste, un peu à l'image de cette phrase sur le bas de la gravure. Et ça faisait écho, en tout cas pour moi, à un anéantissement total. Et je me disais, tiens, anéantissement, on peut l'écrire A-néant, c'est-à-dire la question du vide, l'absence du vide, peut-être. Enfin, est-ce que, justement, dans cet anéantissement, il n'y a pas le plus rien après moi, c'est-à-dire même plus du vide, enfin, et même plus quelque chose qui permette la création. Voilà, en tout cas, ça a fait écho sur ce versant-là. Alors, je vais passer la parole à Philippe.
C'est très bien cette question de l'expérimental, parce que si on conçoit que l'expérience, une véritable expérience transforme quelqu'un, en tout cas, ce ne sera pas le ronron, il est arraché à ses petites affaires. On a toujours l'idée que quand on vit une expérience, bon, ça chauffe. Ça chauffe, on a des trémolos, etc. Ce que Lacan dit ici, c'est que l'expérience, en tant qu'elle est véritable, eh bien, ça chauffe tellement qu'on manque d'air. Il parle d'irrespirable. Et que donc, on s'ennuie. C'est une dimension qu'on dit peu, mais enfin, dans l'expérience analytique, je dis ça prudemment, mais il y a une dimension d'ennui. Hein, on trouve à l'occasion quelques personnages qui ont fait un certain trajet, qui évoquent quelque chose de passionnant, etc. Bon, je veux bien. En tout cas, il y a une dimension, en tant qu'elle est poussée jusqu'à qu'elle est poussée loin, ça, il y a aussi une dimension d'ennui parce qu'on approche de quelque chose de fort. Le quelque chose de fort ne se vit pas nécessairement dans l'enthousiasme. Lacan dit que ça se vit plutôt dans l'ennui. La littérature expérimentale, d'ailleurs, c'est formidable. Formidablement ennuyeux. Hein? Il n'y a qu'un littérature expérimentale, dans le fond, il faut avoir des raisons de la lire. Hein? Mais non pas, c'est pas pour la dévaloriser, c'est aussi pour la quant à réaliste. Hein? Quand on vit quelque chose vraiment qui nous arrache tellement à nos repères que ça, eh bien, il y a une dimension d'ennui. Je pense, c'est tout à fait. Et une dimension d'ennui, non pas que ce soit ennuyeux, mais on réagit psychiquement par l'ennui. C'est une réaction de défense. Il faut donc, comme ça, franchir l'ennui par la répétition des séances, etc., pour qu'il y ait une expérience analytique. Je pense que quand on s'amuse beaucoup, il ne se passe pas forcément toujours grand-chose. Enfin, là, il y a des expériences qui peuvent se témoigner. Moi, je prétends ça. L'autre chose importante, c'est la dimension de l'ex nihilo, je trouve, dans ce, comme tu as bien fait de remarquer ça. C'est que, je ne sais pas si vous avez dit ça en passant, mais quand on prend le grand... Nous ne sommes pas en Amérique ici, Dieu merci. Hein? Mais tout de même, il y a tout un débat dans l'Amérique profonde, bouchiste, si j'ose dire, sur l'évolutionnisme, le créationnisme, enfin, des débats qui nous apparaissent absolument abscons. Mais en tout cas, le créationniste du Middle West nous dira que forcément on n'est pas évolutionniste parce qu'il y a Dieu et que Dieu c'est autre chose que ça et que Dieu dans le fond est un Dieu complet et qu'il a créé le monde premier jour, deuxième jour, etc. Lacan nous dit que le signifiant c'est formidable, le signifiant c'est Saint-Esprit, dit-il quelque part ici, il dit que c'est Dieu, etc. Mais seulement, c'est que Lacan fait ici quand même un éloge du créationnisme. Mais seulement, il dit ceci, c'est que Dieu, c'est pas ce qu'on croit. Il a été dire ça aux catholiques à Bruxelles. On suppose qu'ils s'en sont remis. Mais il dit que Dieu, c'est très bien.
C'est la parole.
Il dit que c'est très bien. Oui, il dit que c'est la parole. Mais enfin, il dit que c'est le manque. Il répète que Dieu ne sait pas. Ce qui n'est pas... ce qu'évidemment, aucun des catholiques présents à Bruxelles, je pense, n'a entendu. En tout cas, s'ils l'ont entendu, ils l'ont oublié. Hein? Dieu ne sait pas. Hein? Et la parole, c'est le vide. Et donc, Dieu, c'est le vide. Hein? Quand on dit, comme tu disais, faisais remarquer, que Dieu est une figure du désir, tu l'as mis en... C'est très bien, les dieux, la figure du désir. Bon, enfin, le désir, c'est le manque, n'est-ce pas? Le manque de Dieu, en général, c'est pas ce qu'on nous bassine le plus. Hein? Si on dit désir, on dit manque. Hein? Alors... Lacan amène tout ça à son auditoire avec un ton assertif, etc. Il les embobine et il n'y voit que du feu. Mais Dieu, enfin parce qu'il y a, je vous dis ça parce qu'il y a eu une, s'il y a bien une ambiguïté dans la psychanalyse en Belgique, ça a été son. La psychanalyse a été pendant longtemps reçue uniquement à Louvain. Et quand même, l'une des figures de la psychanalyse belge était quand même. C'est comme l'abbé Vergaute. Hein? Et tout de même, le manque de Dieu est quelque chose de tout à fait important. Hein?
Mais moi, je pensais que le manque, je le situais plutôt ici.
Oui.
À la mort.
Absolument. Dieu est mort, Dieu ne sait pas. En fait, il lui arrive un tas de choses. Le Dieu de l'acte. Voilà.
D'accord, mais pas là. Ici.
Mais ça revient au même, c'est une autre façon de le dire. Si Dieu est une figure du désir, ce sont les dieux des métamorphoses. Hein? Quand même, Zeus a un désir qui est bien là, hein? Mais s'il peut être ému par les jolies créatures qu'il voit sur la plage, lui aussi, tout de même, c'est qu'il peut en manquer. Bon. Ici, donc c'est là. Bon, donc. Ça, je voulais souligner. C'est le côté.
Ça traverse les deux chapitres. Hein.
Voilà.
C'est ce vide de Dieu.
Voilà.
Et ça, c'est d'abord ça qu'il vise. Hein.
Voilà.
Je trouve. C'est incroyable. Plus que toute autre chose, il me semble.
Et en même temps, il met l'accent, Sade, ce qu'il y a de. Évidemment, d'immortel, enfin, pour le coup, d'immortel, il a qui fait qu'on en parle toujours. Il se retournerait dans sa tombe de savoir qu'il est en Pléiade.
Il a raté.
Mais évidemment, quand Sade ne voulait plus, ne voulait qu'il ne subsiste rien de lui, c'est parce que c'est cohérent. Lacan, là, justement, balance un peu. Il dit que ce n'est pas cohérent, et en même temps, si on y suit le système de Lacan, on peut dire que c'est cohérent. Parce que ça, tout de même, insiste sur ce qu'il y a au-delà du signifiant, que le signifiant installe, qui est au-delà du signifiant, c'est-à-dire le vide. Parce que le vide, pour ça, c'est la jouissance. C'est quand même ça, toujours, qu'il faut entendre. Hein? Et donc, Sade veut construire un monde qui soit construit sur la jouissance. Et sa loi fondamentale, comme tu as dit, c'est une loi qui installe la jouissance aux commandes. Hein? Il va de soi que... On ne dit pas que c'est praticable. Hein? La question n'est pas là. La question, c'est de savoir que c'est quelque chose qui existe et que derrière le signifiant, les belles paroles, les idéaux, etc., ce qu'il y a en chacun... aime ton prochain comme toi-même, oui, très bien, mais enfin, ton prochain, c'est quoi? C'est la jouissance sadienne. Il fait bien remarquer, d'ailleurs, que les fantasmes de l'obsessionnel Bontain, ce sont des fantasmes sadiens. Alors, il faut se calmer, c'est que ce sont des fantasmes. Lacan dit par ailleurs que l'empire des sens, pour ceux qui s'en rappellent, j'ai dû m'occuper de ça, c'est là un fantasme féminin, hein, le fantasme de tuer l'homme. Donc, la jouissance, en tant qu'étant chacun, c'est un machin aussi dégoûtant que ça. Hein? Et donc, c'est ce qu'il s'agit de traiter. Voilà.
Je passe parmi vous si vous avez des questions. Aucun regret sur une question à poser ou une demande d'éclaircissement peut-être d'un point des chapitres ou... Moi, je vais peut-être clôturer au fond sur une question qui est revenue du petit groupe de lecture qu'on fait juste avant la conférence ici, ou à la lecture des chapitres. Certains d'entre nous se demandaient... si on pouvait différencier, si c'était différent, et si on pouvait le dire comme ça, au fond, ce qui apparaît ici comme jouissance partielle et ce qui serait de l'ordre de la jouissance phallique.
Ça relève du beau, la jouissance phallique.
Ni l'une ni l'autre. Lacan ne parle pas de ça ici. Hein? Il parle de la jouissance. D'ailleurs, il n'a échappé à personne qu'ici, c'est massif. Quand on se met à faire les entomologistes et dit il y a la jouissance phallique et puis il y a l'autre, etc. Bien sûr. Mais ici, Lacan prend la jouissance de façon plus massive, la jouissance phallique et l'autre, ça, il différenciera ça plus tard. Et effectivement, c'est important, enfin, c'est tout à fait important. Ici, il l'apprend de façon massive, ne faisant pas la différence qu'il peut y avoir entre le pervers le plus résolu, l'obsessionnel le plus inhibé. Le criminel le plus dangereux. Tout ça par rapport, on pourrait dire, au même énoncé de jouissance. Alors, bien sûr, par rapport à la même chose, il y a là tout un monde qui est tout à fait... on ne peut pas parler de tout en même temps. C'est simplement pour dire que c'est présent chacun, mais que l'obsessionnel s'en défend par la jouissance phallique, par son corset d'inhibition, d'interdiction, c'est un fantasme. Le pervers, il y a là une série de scénarios qui sont réalisés, mais qui restent quand même fort marqués. d'inhibitions diverses. Hein, ça reste quand même quelque chose qui est réalisé, mais qui est réalisé avec toute une série de limites. Et puis, oui, mais enfin, même les limites de Sade, on peut en parler. Hein, parce que quand même, pour quelqu'un d'illimité, il a passé, comme tu as remarqué, 27 ans en prison sur 64. Il a toujours fait ce qu'il fallait pour y arriver. Hein, c'est pas le criminel insaisissable, parce que on ne dit jamais, mais il y a un grand paradoxe dans le séjour qu'a fait Sade en prison. Hein, venant d'où il venait, avec le statut qu'il avait, il aurait très, si ça avait été vraiment la canaille qu'on pense, il n'aurait jamais passé 30 ans en prison. Il n'y avait aucune raison qu'il y arrive. Il a toujours fait ce qu'il fallait pour y arriver. C'est une dimension qui va... Et où le criminel le plus invraisemblable, hein, qui lui n'a aucune des barrières contre lesquelles on se défend de ça. Parce que c'est quand même ça l'idée. Le névrosé et le pervers, contre ça, il faut une série de compromis et de défenses. Le psychotique, là, ça c'est différent. Fort différent. C'est vraiment que par rapport à cette jouissance, ici on l'amène de façon massive, mais quand on fait de la clinique, là il s'agit vraiment de bien faire la différence.
Ouais, oui.
Parce que entre le pauvre obsessionnel qui a un fantasme épouvantable, hein, et qui vient l'appeler au secours, une hystérique pareille, hein, qui a tel rapport, enfin, qui a tel fantasme par rapport à son mari, son amant, etc., que finalement, elle en arrive à faire chambre à part, enfin, j'exagère, hein? Enfin, c'est ça. Oui. La femme qui rêve de couper son mari en morceaux, elle ne se laisse plus toucher par lui. Elle ne le fait pas. Et entre ceux qui passent à l'acte, parce qu'ils n'ont aucune défense et qui sont vraiment dans le champ de la psychose, il faut là vraiment faire des grandes différences, sinon on ne fait pas de clinique.
Oui.
Hein? Voilà. Ici, on est vraiment par rapport au pôle réel de la clinique. Et puis maintenant, il s'agit de faire la différence. Enfin, on ne sait pas tout faire. Hein.
Là, mais le travail d'écriture de Sade a eu un effet quand même sur. Ça a fait limite, on pourrait dire. Hein?
Il a occupé ses longs loisirs dans la prison.
En prison, il a écrit.
Il a pris du poids. Il a fait des
draps
et des livres.
Oui, c'est vrai. Bon.
Voilà. Bon, eh bien, merci beaucoup à Véronique Robert et on se revoit vers la mi-mars.